Alors, avec ce front serein qui chasse les tempêtes et rend le calme à la nature, l'auteur des hommes et des dieux sourit à la belle Vénus, effleure doucement ses lèvres d'un baiser paternel et charme en ses mots ses douleurs. Rassurez-vous, ô cité Rhée, le sort de vos Troyens chéris demeure irrévocable. Oui, vous verrez les murs de Lavinie, ces murs promis par les oracles, et conduits par vous-même au séjour céleste, le grand aîné viendra s'asseoir parmi les immortels. Mes décrets sont immuables. Mais, si tant de soins vous agitent, je vais lever pour vous le voile de l'avenir, et déroulant à vos yeux les pages du destin, vous en expliquer les mystères. De sanglants combats éprouveront en Italie la vaillance d'aînés. Maints peuples indomptables fléchiront sous ses armes. Maintes contrées barbares lui devront des mœurs et des villes. Ainsi les Latins, sous ses lois, verront fleurir trois printemps. Ainsi les Rutules, sous son joug, verront blanchir trois hivers. Après lui, le jeune Ascagne, maintenant fier du nom d'Iule, et qu'on nommait Illus au jour de la gloire d'Ilion, Ascagne remplira de son règne le cours de 30 années. Fondateur d'Albe la Longue, il y transportera son trône et ceindra de vastes remparts le nouveau siège de son empire. Là, durant 3 siècles entiers, les neveux d'Hector commanderont à l'Ausonie. Alors, une reine prêtresse, Ilia, fécondée par Mars, enfantera 2 jumeaux. Ardent nourrisson d'une louve, dont il portera pour parure la dépouille sauvage, Romulus saisira le sceptre, bâtira la cité de Mars, et nommera les Romains de son nom glorieux. Les Romains! Je ne mets point de bornes. Je ne mets point de terme à leur puissance. Leur empire doit être éternel. Junon même, l'inflexible Junon, qui fatigue aujourd'hui de ses plaintes jalouses la terre, l'onde et les cieux, Junon déposera sa haine et, secondant mes desseins, protégera dans Rome la maîtresse de l'univers. Telle est ma volonté. Un temps viendra, dans la durée des âges, où les fils d'Assaracus renverseront les murs d'Achille, asserviront la superbe Mycène, et domineront à leur tour sur Argos humilié. Enfin naîtra César, généreux sang de Dardanus. César, dont les conquêtes s'étendront jusqu'à l'océan, et dont la renommée s'élèvera jusqu'aux astres. Le grand César, héritier du grand nom d'Iule. Un jour, libre d'alarme, vous le recevrez dans les cieux, chargé des dépouilles de l'Orient. Et, nouveau demi-dieu, les vœux des mortels monteront jusqu'à lui. Alors s'enfuira devant la douce paix le démon sanglant des batailles. Astrée, Vesta, sous un nouveau Quirinus, sous un Rémus nouveau, ramèneront l'âge d'or. Le temple de la guerre, ce temple au seuil redoutable, sera fermé de 100 câbles de fer. Au-dedans, la discorde impie, assise sur un amas de lances brisées, et les bras chargés de 1000 nœuds d'airain, l'œil horrible et la bouche sanglante, rugira d'une impuissante rage. Il dit, et du haut de l'Olympe, il envoie sur la terre le divin fils de Maïa pour disposer Carthage en faveur des Troyens et leur ouvrir dans ses nouveaux remparts un asile hospitalier. Didon, ignorant le destin qui les conduit, pourrait leur fermer son empire. Soudain Mercure a pris son vol, et sillonnant d'une aile rapide le vaste océan désert, il touche bientôt le rivage africain. Déjà sont accomplies les volontés de Jupiter. Le fier Tyrien dépouille, à la voix du dieu, son farouche orgueil. La reine, surtout, conçoit, pour un peuple malheureux, des sentiments de paix, et lui prépare un favorable accueil. Cependant, le sage aîné roulait dans la nuit silencieuse mille pensées diverses. À peine à lui la douce aurore, il s'arrache au repos et songe à visiter ces contrées nouvelles pour lui. Sur quel bord l'a jeté la tempête? Ces lieux, qu'il voit incultes, ont-ils pour hôtes des humains ou des monstres sauvages? Il brûle de s'en instruire et d'éclairer ses compagnons par un rapport fidèle. D'abord, il met sa flotte à couvert dans l'enfoncement des bois, sous un rocher caverneux, où des chênes touffus la protègent du noir rempart de leur ombre. Ensuite, il s'avance lui-même, accompagné du seul Akat, et la main armée de deux javelots, munis d'un large fer. Soudain, au milieu de ces bois, Vénus se présente à son fils. Cachée sous les traits d'une vierge de Sparte, Vénus en a les grâces, le port et les armes. Moins belle est Harpalice, fatiguant un coursier rapide sur les monts de la Thrace, et devançant dans sa course le vol agile de l'Eurus. On voit flotter sur les épaules de la déesse le carquois léger des chasseurs. Les vents se jouent dans ses cheveux épars, et sa robe, que relève un nœud d'or, s'ouvre en plis ondoyant au-dessus d'un genou d'albâtre. Guerrier, dit-elle en s'approchant, une de mes compagnes parcourait avec moi ces lieux, l'arc en main, et parée des dépouilles d'un lynx au poil marqué de feu. Ne l'auriez-vous point aperçue, errante autour de ces montagnes, ou pressant à grands cris la fuite d'un sanglier écumant? Ainsi parla Vénus. Le fils de Vénus répond. Aucune de vos compagnes ne s'est offerte à mes yeux. Nulle voix n'a frappé mon oreille. Mais vous, auquel nom vous donnez, Vierge Auguste? Car ses traits, ses accents, ne sont point d'une mortelle. Tout en vous trahit une divinité. Salut, fille du ciel, sœur de Phébus ou nymphe de ces bois, salut. Puissiez-vous nous être propice? Et quels que soient vos destins, daignez compatir à nos peines. Daignez nous apprendre sous quel astre lointain, sur quelle rive inconnue le sort nous a jetés. Les hommes et les dieux, tout ici est nouveau pour nous. Poussés sur ses bords par les vents et les flots en furie, nous foulons une terre ignorée. Jeunes immortels, guidez nos pas. Nos mains reconnaissantes immoleront sur vos autels des victimes sans nombre. Vénus alors. Je suis loin de prétendre à de tels honneurs. Ce carquois, ce cothurne, cette pourpre éclatante sont la parure accoutumée des filles de Sidon. Vous voyez les états puniques, des tribus phéniciennes, une ville d'Agénor. Ces champs voisins sont la Libye, contrée féconde en guerriers. Didon régit cet empire. Didon qui s'exila des murs de Tyr pour fuir un frère persécuteur. Sa longue injure exigerait un long récit, mais il me suffira d'en effleurer rapidement l'histoire. Didon eut Siché pour époux, Siché dont la Phénicie vantait l'opulent domaine, et que sa malheureuse épouse chérissait du plus tendre amour. Elle était passée, vierge encore, des mains d'un père dans les bras d'un époux, et ses premiers nœuds semblaient formés sous des auspices favorables. Mais son frère, l'infâme Pygmalion, siégeait sur le trône de Tyr. Et tous les crimes y siégeaient avec lui. Bientôt la discorde éclate. Le monstre, aveuglé par la soif de l'or, fond un jour sur Psyché dans l'ombre des saints mystères, et bravant à la fois les dieux, la nature et l'amour, le poignarde au pied des autels. Toutefois, le perfide sut longtemps cacher son forfait, et, sans cesse inventant de nouveaux mensonges, longtemps il abusa d'un vain espoir cette malheureuse épouse. Mais un songe véridique vint offrir à l'infortuné l'ombre sanglante de son époux privé de sépulture, et levant du sein des ténèbres son front couvert d'une horrible pâleur. Le spectre en courroux lui montre l'autel sanglant, lui montre ses flancs nus percés du glaive fratricide, et déchire le voile dont une cour odieuse enveloppait ses trames. Fuis, ô veuve de Psyché, fuis la terre qui t'a vu naître, dit-il alors d'une voix lamentable. Et pour favoriser sa course lointaine, il découvre à ses yeux, dans les entrailles de la terre, le vaste amas d'un trésor longtemps ignoré. Saisi d'effroi, Didon abjure sa funeste patrie et rassemble à la hâte ses nombreux partisans. Autour d'elle se rallient tous ceux que la haine anime contre un tyran cruel ou qui redoute sa vengeance. Le hasard leur présente au port des vaisseaux prêts à s'éloigner. La troupe s'en saisit et les charge d'or. Les mères emportent les richesses de l'avare Pygmalion. Une femme a conduit cette grande entreprise. C'est en ces lieux qu'ils arrivèrent. Alors ne s'élevaient pas encore ces superbes remparts, ces tours élevées jusqu'aux cieux, dont la naissante Carthage va bientôt frapper votre vue. Ils achetèrent de terrain ce que la dépouille d'un taureau pouvait en embrasser. Ils y bâtirent une citadelle, et le nom de Byrsa en atteste l'origine. Mais vous, enfin, quel sang vous a fait naître? Quel bord avez-vous quitté? Quel est le but de votre course? À ces questions, Aîné soupire, et, d'une voix étouffée par de longs gémissements, ô déesse, si, remontant à la source de nos malheurs, vous me permettiez d'en retracer l'histoire. La nuit, enveloppant les cieux, fermerait les portes du jour, avant qu'un triste récit vous eût conté tous nos revers. Troie fut notre berceau, l'antique Troie, dont peut-être la chute a retenti jusqu'à vous. Échappés de ces murs fumants, nous traînions de mers en mers notre exil. Un coup de la tempête nous a jetés sur les plages de l'Afrique. Je suis Aîné. Mon nom trop fameux a volé jusqu'aux astres. Fidèle adorateur des dieux, j'ai ravi mes pénates aux flammes ennemies. Je les porte avec moi sur les flots. Je cherche l'Italie, patrie de mes premiers aïeux. Et ma race remonte au grand Jupiter. 20 navires composaient ma flotte quand je m'embarquais sur les mers phrygiennes, guidé par la déesse à qui je dois le jour, et poursuivant sous ses auspices la gloire promise à mes destins. 7 à peine me restent, arrachés non sans peine aux fureurs des vents et des ondes. Moi-même inconnu, sans asile, je parcours en fugitif les déserts de la Libye, et l'Europe et l'Asie me repoussent tour à tour. Touché de ces plaintes douloureuses, Vénus les interrompt par ces mots consolants. Ô qui que vous soyez, non, le ciel, croyez-moi, ne vous voit pas dans sa colère, puisqu'il vous amène à Carthage. Marchez, le palais de la reine s'ouvrira devant vous. Bientôt, vos compagnons sauvés souriront à votre retour. Bientôt, vos nefs recueillies oublieront au port les orages. Et déjà, le fier Aquilon s'est changé pour elle en zéphyr. Ce présage est infaillible, ou les leçons d'un père instruisirent en vain ma jeunesse dans l'art sacré des augures. Contemplez ces 12 signes se jouant dans la nue. Tantôt l'oiseau de Jupiter, fondant de hauteur de l'Olympe, poursuivait leurs troupes dispersées. Maintenant réunis, l'essaim joyeux a déjà touché la terre, ou, près de la toucher, la salue d'un cri d'allégresse. Affranchis du péril, comme ils célèbrent leur bonheur par le battement de leurs ailes, comme ils tournent en cercle folâtre dans le vague azur des airs. Ainsi vos poupes fortunées, ainsi vos guerriers triomphants, où reposent dans la rade, où s'élancent à pleine voile aux bords hospitaliers. Marchez donc, et suivez la route que fraye à vos pas la fortune.